Je voudrais aussi, là maintenant, vous parler d'un autre aspect de la tradition très important que constituent les docteurs de l'Église. Alors, à ne pas confondre avec les pères de l'Église, je ne sais pas si vous avez entendu l'enregistrement sur les pères de l'Église, mais disons que les docteurs de l'Église, contrairement aux pères de l'Église, ne se définissent pas d'abord par leur chronologie, c'est-à-dire les pères de l'Église sont définis par leur ancienneté dans l'Église, pas forcément pour les docteurs de l'Église. Enfin, pour les pères de l'Église, il n'y a pas une liste arrêtée, alors que pour les docteurs de l'Église, il y a une liste arrêtée. Donc le titre de docteur de l'Église est officiellement donné à des écrivains ecclésiastiques remarquables par la pureté de l'orthodoxie et la qualité de la science. Alors pour quelle raison Dieu a-t-il suscité ces personnages? Il y a à mon sens deux raisons indissociables à l'existence et à l'utilité des docteurs de l'Église. La première est que l'Église a toujours eu besoin, quelle que soit l'époque, de défenseurs habiles et avisés de la foi orthodoxe, tels que le Christ nous l'a transmise pendant son séjour terrestre ou par l'intermédiaire de son esprit, comme d'ailleurs il avait promis aux apôtres, confère Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 13. Ce qui nous amène à la deuxième raison, les progrès de la foi. En effet, le Christ supposait dans ce passage, donc Jean 16, versets 12 à 13, une compréhension progressive en mouvement de sa personne, qui nécessitait une réflexion éclairée de la part de l'homme. Les dogmes définis progressivement au cours des âges, dans le but de clarifier toujours plus la foi, ne sont pas autre chose. Il s'est trouvé des hommes et des femmes particulièrement ouverts à l'inspiration de l'esprit sur ce chemin de l'approfondissement, qui ont contribué plus que tout autre au progrès de la foi. Ce sont les docteurs. Il était donc naturel de les avoir en haute estime. Eux qui, à un degré plus poussé, ont façonné ce garde-fou de notre liberté religieuse qui s'appelle la tradition. À leur contact, nous approfondissons sans aucun doute notre compréhension de la foi et donc de la personne du Christ lui-même. Dans cette optique, laissez-moi vous citer cette merveilleuse définition du Père de l'Église qui est Saint Vincent de Lérins, qui a vécu au 5e siècle, de ce qu'est le progrès de la foi, auquel les docteurs ont tant œuvré. Mais avant ces citations, laissez-moi vous préciser encore ce qu'est un docteur par rapport à un père. Les pères de l'Église, comme je l'avais dit dans l'enseignement et dans l'enregistrement sur les pères de l'Église, sont les témoins privilégiés de la tradition des premiers siècles du christianisme. Les docteurs sont comme le relais de ces pères de l'Église, parce qu'ils vont effectivement s'étendre des premiers siècles jusqu'au 19e siècle, et il y en aura encore d'autres qui seront nommés probablement dans les siècles futurs de l'Église. Donc ces docteurs sont comme les relais à certaines époques du travail de tradition qu'ont fait les pères de l'Église. Donc nous en avons tout autant besoin que les pères de l'Église pour dans notre meilleure compréhension de la foi et de la lecture des Écritures. Donc de nouveau, ce concept de tradition qui est là pour nous aider à mieux comprendre les Écritures comme elles doivent être comprises si nous épousons les racines qui vont jusque dans l'enseignement des apôtres, hein, cet enseignement qui a pris forme dans le Nouveau Testament et dans les écrits des pères apostoliques, des pères de l'Église apostolique, et qui continue à s'actualiser dans l'enseignement des docteurs de l'Église. Donc en lisant les docteurs, tout comme en lisant les pères, nous allons vraiment approfondir notre connaissance de la foi et nous allons éclairer notre compréhension de l'Écriture, étant sûr que cette compréhension est nourrie à la tradition de l'Église, celle qui a justement façonné le Nouveau Testament. Il y a donc comme ça pas de risque de s'écarter et d'avoir des opinions farfelues. Alors, revenons à la citation de Saint Vincent de Lérins, donc sur ce qu'est le progrès de la foi, progrès auquel les docteurs ont tant œuvré. Ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion? Si, assurément, et un très grand, à condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi, et non d'un changement, car il y a progrès quand une réalité s'amplifie en demeurant elle-même. Mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. Il faut donc qu'en chacun et en tous, en chaque homme aussi, bien qu'en Église entière, au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement dans le même sens, selon les mêmes dogmes et la même pensée. Que la religion imite donc la croissance du corps dont les éléments évoluent et se développent au rythme des années, mais demeurent eux-mêmes. Il en va de même pour les dogmes de la religion chrétienne. La loi de leur progrès veut qu'ils se consolident avec le temps et grandissent au loin des âges. Nos ancêtres ont jadis ensemencé le champ de l'Église avec le blé de la foi. Il est normal et il convient que la fin ne renie pas l'origine, et qu'au moment où le blé de la doctrine a levé, nous moissonnions l'épi du dogme. Ainsi, lorsque le grain des semailles a évolué avec le temps, rien cependant ne change des caractères propres du germe. Donc vous voyez, je voudrais reciter, parce que je crois que je l'ai mal lu, mais c'est assez fondamental, hein, car il y a progrès quand une réalité s'amplifie en demeurant elle-même, mais il y a changement si elle se transforme en une autre, réalité. Il faut donc en chacun et en tous, en chaque homme aussi, bien qu'en Église entière, au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement dans le même sens, sont les mêmes dogmes et la même pensée, etc. Donc vous voyez, ici, le dogme est très mal compris d'ailleurs à notre époque. Dogme égale ce qui brime la liberté, mais le dogme est une aide. Le dogme est justement le fruit de notre intelligence qui a travaillé en coopération avec l'inspiration de l'esprit. Mais c'est ça le dogme. Et le dogme finalement, comme étant le fruit du travail des hommes pour se laisser féconder par l'inspiration de l'Esprit-Saint, est une aide, une main tendue pour que nous-mêmes nous puissions féconder notre lecture des Écritures, notre compréhension de la foi, dans l'actualisation de notre vie quotidienne. C'est comme ça qu'il faut comprendre un dogme, et non pas comme quelque chose qui nous brime. Alors, les dogmes sont des garde-fous, des balises qui nous éclairent pour que nous suivions notre propre route. Il faut bien comprendre. Alors maintenant, je ne vais pas vous citer tous les docteurs de l'Église, mais disons, sachez que les docteurs, contrairement au père, ils ont un nombre fixe. Enfin, fixe jusqu'au moment où le pape en nommera d'autres. Donc, ils sont au nombre de 33. Certains ont toujours été considérés comme tels. Alors, il y a des pères de l'Église, sont docteurs. Il y a 4 pères grecs, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome et Saint Athanase d'Alexandrie. Il y a 4 pères latins, Saint Grégoire le Grand, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Jérôme. Les autres docteurs le sont devenus par proclamation papale. Alors nous avons Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Anselme, Saint Isidore de Séville, Saint Pierre Chrysologue, qui était aussi père de l'Église, Saint Léon le Grand, père de l'Église aussi, Saint Pierre d'Amiens, Saint Bernard de Clairvaux, donc docteur du Moyen-Âge, comme tout à l'heure Saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure aussi était franciscain. Nous avons Saint Hilaire de Poitiers, père de l'Église, Saint Alphonse de Ligorie, donc saint du XVIIe siècle, XVIIe-XVIIIe siècle, Saint François de Sales, XVIe-XVIIe siècle, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Jean d'Amasène, tout ça aussi sont des pères de l'Église, Saint Ben de Vénérable, Saint Ephrem, un Syriaque, Saint Pierre Canisius, donc saint de la Renaissance, en pleine réforme, Saint Jean de la Croix, qui ne connaît pas Saint Jean de la Croix, donc le Carme, le saint espagnol, pareil, période de la Renaissance, Saint Robert Bellarmin, en pleine réforme protestante, Saint Albert le Grand, saint du Moyen-Âge, Saint Antoine de Padoue, franciscain, saint du Moyen-Âge, Saint Laurent de Brignilly, pareil, il est intervenu à la Renaissance au moment de la réforme protestante, Sainte Catherine de Sienne, sainte du Moyen-Âge qui a tellement œuvré à ce que les papes reviennent à Rome, Sainte Thérèse d'Avila, la compagne spirituelle de la carmélite de Saint Jean de la Croix, très grande mystique, et enfin la petite dernière, celle que Jean-Paul II a nommée docteur de l'Église en 97, sainte du XIXe siècle, notre chère Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, si vous voulez des biographies et des extraits en ligne de ces pères de l'Église ou des conseils d'achat, je vous conseille de même d'aller sur le site www.prieresansaccent.org et aller dans le plan du site à Docteur de l'Église. D'ailleurs, en parlant de Docteur de l'Église, j'ai apporté des précisions, mais j'ai surtout lu ce que vous trouverez sur ce site, sur la page Docteur de l'Église, si vous voulez l'imprimer. Donc là, vous trouverez des liens vers des biographies et des bibliographies et des extraits en ligne de ces docteurs de l'Église. Rien de tel que de lire leurs biographies et commencer à lire leurs œuvres pour se familiariser avec eux et goûter à leur enseignement qui vont vraiment nourrir notre foi pour qu'elle devienne plus personnelle, aidée par tous ces dogmes qu'eux-mêmes ils ont tellement contribué à façonner. Voilà. J'espère vous avoir aidé sur cet aspect de la tradition que sont les docteurs de l'Église. Free audio post-production.
by alphonic.com.